Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès.
Aujourd'hui, dans l'émission Méditerranée, je vous amène à Narbonne pour découvrir la maison natale de celui que l'on appelle le fou chantant. Située au numéro 13 de la bien nommée avenue Charles Trenet, cette maison aux volets verts a vu naître le poète le 18 mai 1913. Depuis novembre 2000, elle est désormais ouverte au public. Et pour en parler, nous sommes avec Mireille Franck, responsable de la ville d'art et d'histoire et guide conférencière à la mairie de Narbonne. Ensuite, nous aurons l'œil du journaliste et écrivain Jacques Pessis, l'un des amis de Charles Trenet. Bonjour à vous Mireille.
Bonjour Magali.
Alors c'est la maison que la ville de Narbonne a acquise auprès de Charles Trenet de son vivant.
Oui, tout à fait. La ville de Narbonne l'a acquise de son vivant et y a pu développer une muséographie en lien avec ce que Charles Trenet attendait. C'est-à-dire que quand il a fini par la vendre à la ville de Narbonne, nous avons pu développer tout un discours que Charles Trenet a lui-même transmis sur son lieu d'inspiration privilégié. Cette maison, il y a beaucoup tenu pendant toute sa vie. Il y rendait visite de temps en temps. On voyait de très jolies voitures entre les deux platanes devant la maison. Et il a eu du mal à la laisser. Lorsque la ville a souhaité l'ouvrir au public, il ne voulait pas que ça soit un musée. Il voulait que ça soit vivant, qu'il y ait de la musique qui ressorte, qui retentisse dans ses murs. Et c'est en respectant ce vœu et avec son approbation, qu'il nous a rendu visite une dernière fois au mois d'août 2000, quelques mois avant l'inauguration de la maison. Donc c'est avec son approbation qu'on a pu développer tout un discours sur les souvenirs d'enfance et sur son lieu d'inspiration privilégié.
Et en 2011, le projet avait obtenu la labellisation Maison des Illustres par le ministère de la Culture. Alors jusqu'à quel âge Charles Trenet a-t-il vécu dans cette maison ?
Alors Charles Trenet est parti à l'âge de 7 ans, pensionnat à Béziers. Lorsqu'il est adolescent, il a quitté sa maison natale pour rejoindre son père à Perpignan, puisque sa maman voyageait avec son nouveau mari, Benovini, en Europe de l'Est, en Allemagne, où il lui rendait également visite. Et cette maison restera la maison familiale, la maison de ses grands-parents. Donc il la fréquentera aussi pendant son adolescence, mais il y vivra jusqu'à l'âge de environ 10 ans.
Une bonne partie du répertoire musical de Charles Trenet est inspirée de sa famille et de sa maison.
Oui, une bonne partie du répertoire, et même quand on ne l'entend pas dans les titres, parce que par exemple on a la famille musicienne, on a le petit pensionnaire, qui est un très mauvais souvenir, puisqu'il a été arraché au cocon familial pour partir en pension. Que veux-tu que je te dise, maman, de Narbonne, de ses églises, etc. Ne cherchez pas dans les pianos, c'est une chanson qui évoque les souvenirs. Le revenant, ce sont des peurs d'enfant, où il entendait les meubles craquer la nuit, puisque en Narbonne, quand le vent vient de la mer, le bois travaille, il craque, donc il s'imaginait que c'était des revenants. Au fond de son lit, il avait très peur. Papa peine dans les bois, la famille musicienne, vous souvenez-vous grand-maman, voilà, papa pique maman coup, la maison du poète, ma maison. Maman ne vend pas la maison, il pleut dans ma chambre, quand il pleuvait, il pouvait y avoir quelques gouttières dans le grenier, voilà, par la porte entrouverte, quand le ciel est clair. Et puis ce rythme qu'il entendait lorsque les locomotives passaient devant la maison, et il les écoutait jusqu'à ne plus les entendre et il voyageait. Son âme d'enfant a beaucoup travaillé avec cet environnement, l'environnement de la maison et l'environnement de la famille. Et il a également écrit beaucoup de chansons qui font référence à Narbonne, aux années d'enfance. Coin de rue, ma ville, fidèle, Narbonne mon ami, le temps qui passe nous a volé, implorante la plante, dîner avec un ami, j'en passe beaucoup. Je t'attendrai à la porte du garage aussi, fait beaucoup allusion à ce voyage qu'il prend sur la route nationale vers le midi. La mer l'a beaucoup inspiré, là où il passait ses vacances pour la nouvelle. Et l'environnement météo, la couleur du ciel, le vent, la tramontane, chante le vent, le petit oiseau, mes jeunes années. Toutes ces chansons, en fait, ont, ne serait-ce que sur un petit couplet ou des petits mots, une référence à ce souvenir qui l'habite.
Et la maison de Charles Trenet était située près d'une gare, il voyait passer les trains, c'est un petit peu comme Michel Drucker finalement, il se mettait à rêver.
Oui, oui. Les locomotives, c'était mes copines, il dira dans une interview radio. Maintenant, elles ont beaucoup moins de charme parce qu'on ne les entend plus. Ce sifflement et le vrombissement sentiment que cela procurait lorsque les gros trains de futaille passaient à côté de la maison et faisaient trembler les fenêtres. Ça aussi, ça lui secouait les tripes. Il avait d'abord peur, puis il regardait les locomotives passer, et puis quand c'était la nuit, il connaissait les horaires des trains, il écoutait le rythme musical qui va sans doute l'inspirer, et surtout il voyageait. Il s'inventait des destinations, il se voyait sur le train, emporter sa famille vers des horizons lointains. Il faut également penser que la chanson « Je chante », qui est un des plus grands succès de Charles Trenet, c'est un poème qu'il écrit enfant en regardant les réfugiés alsaciens qui faisaient chemin sur la voie ferrée et qui faisaient route vers l'Espagne. Ces réfugiés, il les a observés depuis la fenêtre du bureau de la maison, qui est très basse. Il était très petit. Et il demande ce que font ces personnes habillées pauvrement, fatiguées, exténuées, et on lui explique que ce sont des réfugiés. Adolescent, il écrit un poème « Je chante, je couche sur l'herbe tendre des bois, les mouches ne me piquent pas, je chante, je suis un pauvre alsacien. » Et quand il met ce poème en chanson, il est à Paris, il a une identité de méridional, et le pauvre alsacien se transformera par soir et matin. Voilà, je chante soir et matin.
Et si Charles Trenet a été si inspiré, c'est aussi parce qu'il est issu d'une famille de musiciens. Charles Trenet se plaisait à répéter « Mes autres maisons m'appartiennent, mais j'appartiens à celle de Narbonne ». On peut découvrir dans cette maison les archives familiales et artistiques.
Oui, on découvre dans cette maison, alors elle a beaucoup changé parce qu'il a créé deux appartements, un pour sa maman au premier étage et un pour lui au second étage. Mais les archives que l'on découvre et qu'il a bien voulu nous laisser, ce sont des petits tableaux de lui, de son frère. Ce sont des éléments de décor où il avait choisi de mettre du verre sur les radiateurs, des éléments d'ameublement très 70s. Et ce sont des archives sensibles aussi, ils témoignent des bruits, des odeurs qui lui sont très familières et qu'il retrouve. Cet environnement olfactif et sonore, c'est sa Madeleine de Proust. Quand il y revenait, il retrouvait vraiment l'environnement de son enfance, les bruits de porte.
Et la mise en scène est signée Jacques Pessis et illustrée par le regretté Cabu, dessinateur de presse, disparu trop tôt lors de l'attentat de Charlie Hebdo. Et de toutes les pièces, c'est celle de son enfance qui est restée intacte.
Oui, de toutes les pièces, c'est celle de son enfance avec un mobilier en rotin, art déco, qui est resté intact. Son placard aussi, les grands placards dans lesquels il s'imaginait que son grand-père avait été Barbe Bleue puisqu'il avait aperçu les 12 femmes qui pendaient dans le placard et en fait c'était des robes accrochées sur des cintres. Donc une imagination débordante et des choses qui sont restées en l'état ou du moins qui nous permettent de raconter ses souvenirs puisque les placards n'ont pas été détruits. Par chance, on a gardé l'agencement d'origine de cette maison.
Et ce n'est pas un hasard puisque Trenet a toujours voulu garder son âme d'enfant. Ce lieu est de plus interactif puisque l'on peut même pousser la chansonnette avec un karaoké.
Alors oui, le karaoké a été placé dans la chambre d'enfant de Charles Trenet, à côté du salon de la famille musicienne, là où même on se plaisait à le réveiller en faisant venir le facteur qui prenait après sa tournée une petite flûte et qui savait que dans la famille musicienne, on pouvait entonner à tout moment de la journée un petit concert. Le papa faisait du violon, en effet il y avait un piano, il y avait un violon, il y avait une harpe, sa maman jouait de la harpe. Donc cette façon de proposer au public un karaoké, c'est pour inviter le public à chanter, comme Charles Trenet a pu le faire de maintes reprises dans cette maison. Et c'est l'occasion, au deuxième étage, un peu à l'abri des regards aussi, se lancer sans complexe et d'essayer de chanter le rythme de Charles Trenet, un rythme qu'il a introduit, c'est un précurseur à introduire ce jazz, ce rythme d'outre-Atlantique en France. Et ce n'est pas du tout évident de chanter du Trenet. Avec mes collègues, on s'y est essayé et on est vite débordé. Il chantait très vite, il articulait très bien. Il adorait les calembours, les jeux de mots. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à essayer parce que c'est là où on se rend compte du talent d'artiste.
Tout à fait. Et quel est le public de la maison natale de Charles Trenet ?
Le public majoritaire, c'est un public au-delà de 50 ans qui a la curiosité de découvrir la maison natale du fou chantant. Mais en fait, on a un service éducatif patrimoine et musée et on développe des actions pédagogiques. Donc les classes de Narbonne se rendent régulièrement à la maison natale de Charles Trenet. On joue sur le rythme, on leur présente les paroles des chansons qui sont tout à fait abordables. Alors, ça peut être Narbonne, mon ami, qui est un très bel hommage à la Narbonne qu'il traversait pour se rendre au séminaire de Beauséjour. Traverser toute la ville et les deux quartiers historiques, donc il évoque dans Narbonne, mon ami, beaucoup d'espaces urbains et les jeunes Narbonnais s'y retrouvent. Ils apprennent la mer, ils apprennent le soleil à rendez-vous avec la lune, boum, quand votre cœur fait boum. Ils viennent découvrir ce qu'est l'environnement du fou chantant, tout en apprenant des chansons. Et on a également un petit livret pour le jeune public et pour les visites familles, avec quelques questions qu'ils gardent en fin de parcours. Donc on arrive à toucher un public familial, un public scolaire grâce aux actions du service éducatif. Il existe un pass monumental Narbonne et la ville de Narbonne a en gestion le palais musée des archevêques avec la maison de Charles Trenet et différents sites, monuments et musées. Et dans ce billet global est comprise la maison de Charles Trenet. Donc en fait, la billetterie draine un public qui ne serait pas venu de prime abord.
L'étude des chansons de Trenet fait-elle partie du répertoire des écoliers narbonnais ?
Pas tous, mais pour la plupart, oui. Dans leur cursus, entre la maternelle et le CM2, les écoles de Narbonne évoquent plus ou moins, une fois ou même plus, une œuvre de Charles Trenet, oui. Ça fait partie du programme. On a également des classes CHAM. Ce sont des classes avec des horaires aménagés. Qui se rendent à la maison Trenet parce qu'ils étudient de façon approfondie la musique. Donc, ils ont une pratique de chant choral et de musique.
Eh bien, merci beaucoup, Mireille Franck, pour cette interview. Votre accent méridional nous donne envie de visiter la maison natale de Charles Trenet. Je l'avais moi-même visitée avec ma grand-mère, née la même année que Charles Trenet.
Merci, Magali. Avec plaisir.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Et c'est sans doute Jacques Pessis, qui a lié d'amitié avec Trenet, qui évoque le mieux l'artiste. Vous êtes le biographe officiel de Charles Trenet, dont vous avez été un ami proche pendant près de 20 ans. Qui était le Trenet que vous avez connu ?
Alors, il y avait deux Trenets. Le Trenet en scène qui était joyeux, et le Trenet dans la vie qui était non seulement joyeux, cultivé, mais philosophe du bonheur. J'ai eu le privilège, même pas la chance, le privilège de faire partie de ceux avec qui il aimait rire. On se retrouvait pour déjeuner à 13h, plusieurs fois par an, à peu près tous les deux mois, et même parfois plusieurs jours d'affilée. Et ça commençait à 13h et ça finissait par 23h, vers 23h, avec des nourritures terrestres, mais des nourritures intellectuelles, car il racontait le siècle. Trenet avait dit un jour, j'ai une mémoire gênante. C'est-à-dire qu'il connaissait tout le monde, il avait connu tout le monde, de Mistinguett à Cocteau, en passant par Albert Einstein ou Charlie Chaplin, et il le racontait avec passion et un humour.
Un privilège de l'avoir côtoyé. Et vous lui avez rendu hommage à plusieurs reprises, d'abord avec Radio Trenet, également avec un spectacle musical La Vie et à travers quelques livres.
Oui, je crois que j'ai fait 5 ou 6 livres sur lui pour une raison fort simple, c'est que Charles Trenet, le passé ne l'intéressait pas. 2-3 fois, je l'ai interrogé en disant « Mais Charles, on raconte n'importe quoi sur vous, pourquoi ne dites-vous pas la vérité ?» Et il répondait « Oh, c'est tellement loin, tout ça, ça ne m'intéresse pas. » Et moi, j'ai voulu rétablir certaines vérités et mettre en valeur ses chansons, non pas pour le public d'aujourd'hui, mais pour le public de demain. Car Trenet a toujours été fêté par les jeunes, et il me semble indispensable de continuer. Trenet, c'est l'inventeur de la chanson française. Jacques Brel a dit « Sans Trenet, on serait tous des comptables. » Aznavour le considérait comme un maître. Et aujourd'hui, pour moi, l'avenir de la chanson française passe par l'exemple de Trenet.
Oui, c'est vrai qu'en effet, Trenet avait été dénoncé comme juif par les nazis, puis soupçonné d'être collaborateur. Par la suite, il a été accusé de détournement de mineurs, mais il préférait ignorer ses invectives.
Oui, alors d'abord, juif, c'était faux, c'était une dénonciation calomnieuse. Il a démontré qu'il n'était pas, à tel point que ses preuves étaient tellement fortes que les nazis ont cru qu'il était un juif synthétique. Ensuite, cette histoire de détournement de mineurs, dans mon dernier livre, Trenet hors champ, je l'ai raconté exactement, car j'ai retrouvé toutes les preuves, les minutes du procès. En fait, on l'a condamné en première instance à une amende, et en fait, en deuxième instance, il a été blanchi, car un inspecteur a fait parler ceux qui l'accusaient, qui ont menti. En fait, ils avaient été virés de Trenet pour qui ils travaillaient, tirés de chez Trenet pour qui ils travaillaient, et ils ont menti pour essayer de soutirer de l'argent à Charles Trenet. Et finalement, Charles Trenet a été relaxé complètement de cette histoire qui est totalement fausse.
Oui, et au sujet de la collaboration, je cite qu'il avait d'ailleurs précisé dans une interview « Si la France est occupée, je foutrai le camp ».
Oui, d'abord, il n'a jamais chanté devant les Allemands. Ophélie Bergère, un jour, il est engagé, on lui dit, mais il n'y aura pas d'Allemands dans la salle. Il rentre en scène, il ne voit que des histoires allemands. Le lendemain, il s'est arrangé pour arriver en retard, il a tellement mis la pagaille qu'il a été viré. Et quand on l'a obligé à aller chanter en Allemagne, il s'est tellement bien débrouillé en n'insistant pas au dîner en arrivant en retard, et qu'il a chanté pour les prisonniers français une fois au lieu de 5 prévus.
Et oui, et Douce France a même été interprétée comme une chanson résistante.
Non seulement résistante, mais ça a été un hymne de la résistance. C'est Valérie Giscard-d'Estaing qui, dans ses jeunes années, racontait que pour se remonter le moral dans le maquis, il chantait Douce France, et il n'était pas le seul.
Et alors, traîné à chanter dans de nombreux pays, dont Israël en 1958, cette tournée a-t-elle eu le succès mérité, puisqu'on est sur Radio JM?
D'abord, il a chanté partout, et toujours en affichant des salles complètes. Il faut savoir que traîné entre 1946 et 1978, il a chanté dans le monde entier. Il a été une star aux États-Unis, en Israël, partout. Et il estimait que c'était son devoir de chanter partout, de représenter la France. Il avait son répertoire, c'était des chansons qui symbolisaient la douce France, le cher pays de son enfance.
Alors, le répertoire de Traîné est immense, on lui doit plus de 1000 chansons, mais il faut peut-être préciser que dans la mer, ce n'est pas la Méditerranée qui a inspiré Traîné, mais les temps de taux.
Exactement. Et ça, il m'a raconté un jour l'histoire, il m'a même montré le lieu. Il était dans un train pendant la guerre, et puis tout d'un coup, il voit cette image de l'étang de Thau, et la mer, il avait commencé à trouver des paroles quelques années plus tôt, la mer lui vient immédiatement en 4 minutes. Et en 4 minutes, il écrit la mer. Et naturellement, il n'y a pas de papier, on est en pleine guerre, donc on trouve du papier aux toilettes pour écrire les paroles et pour mettre les premières notes de musique, parce qu'il ne faisait pas les arrangements. Il crée cette chanson, elle n'a aucun succès, d'autres la reprennent, comme Suzy Solidor ou René Lebas. Et puis en 1946, il va chez Raoul Breton, son éditeur, proposer ses nouvelles chansons. Alors Breton dit « Oui, c'est pas mal, mais t'as rien de mieux ». Traîné n'aime pas qu'on lui dise ça, donc il est un peu furieux. Il se lève, il va vers la porte, et sur le pas de la porte, il dit « Ah tiens, oh, j'ai peut-être une autre chanson, mais c'est une balade, ça ne va pas t'intéresser. » Et il lui joue « La mer ». Et Raoul Breton dit « Ça, c'est intéressant. Ah bon, tu crois ? Ça marchera jamais. » En fait, le génie de Raoul Breton, c'était de prendre cette chanson et d'en faire un chœur, le premier chœur de l'histoire de la chanson populaire. Et ça a donné 4000 versions dans le monde.
Et cette chanson est une des plus belles du patrimoine musical français. Narbonne, ville de sa mère où il est né, et le pays catalan d'où son père est originaire, sont évoqués dans plusieurs de ses compositions.
Ah bah bien sûr, Narbonne, mon ami, toute sa famille. C'est-à-dire que le répertoire de Traîné, c'était son enfance. Il disait qu'il a eu une enfance pas très facile, puisque sa mère est partie, il s'est retrouvé en pension. Il disait, après, quand je serai adulte, j'aurai toute ma vie pour vivre mon enfance. Et il l'a raconté dans ses chansons. Toutes les chansons de Traîné, il y a une arrière-pensée de Narbonne et du pays catalan.
Font-Romeu, la Tramontane.
La Tramontane est très particulière. Il m'a raconté que c'est une chanson qu'il avait commencé à écrire quand il avait 5 ans, et c'est à 80 ans qu'il l'a terminée. Mais il n'arrêtait pas. Moi, il y a une chanson magnifique que peu de gens connaissent parce qu'elle n'est sortie qu'après sa mort, qui est « Fais ta vie ». Alors, « Fais ta vie », non pas la version chantée, mais la version parlée. C'est le premier slam, et quand on écoute cette chanson, on mesure ce que Traîné voulait exprimer.
Oui, il était visionnaire. Et Jean d'Ormesson disait que Traîné aurait fait un bon académicien. C'est aussi votre avis ?
Il n'a pas été élu à l'Académie française pour de sombres histoires politiques, mais il a été élu à l'Académie des Beaux-Arts. Et modestement, j'en suis responsable. C'est moi qui ai monté le coup avec le chancelier de l'Académie des Beaux-Arts à l'époque, et ça a marché. Il a été élu, et malheureusement, il est mort avant d'être reçu à l'Académie des Beaux-Arts.
Et l'on comprend votre émotion. Et aujourd'hui, nombreux sont les artistes se revendiquant de l'héritage de Traîné, Souchon, Bruel, Benjamin Biolay et d'autres.
Souchon dit, c'est en écoutant Il y avait des arbres que j'ai décidé de faire ce métier. Donc tous ont quelque chose en eux de Traîné, on a tous en nous quelque chose de Charles Traîné, comme dirait Johnny dans Tennessee. Mais ça, c'est l'époque d'aujourd'hui. Et moi, je pense à l'époque de demain, et je pense qu'aujourd'hui, il est urgent de rediffuser, de réentendre les chansons de Traîné. On les apprend dans les écoles, mais pour moi, c'est largement insuffisant. Il faut absolument que de jeunes artistes continuent à mettre en valeur Traîné, qu'on écoute ses paroles, qui sont de vrais poèmes, qu'on écoute ses musiques, qui sont des musiques de joie, d'espérance, et c'est une chose mais indispensable, et je regrette qu'aujourd'hui, on n'écoute pas assez les chansons de Trainé.
Et vous avez écrit aussi Le philosophe du bonheur, un hommage à Trainé. Vous avez écrit beaucoup sur Trainé. Il y a un projet pour les années à venir?
Pour l'instant, non. Je crois avoir accompli ma mission. On verra plus tard. J'ai d'autres missions à accomplir. Mais je souhaite que tout ce que j'ai fait puisse intéresser les jeunes. Et surtout, je ne l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait pour la chanson française, pour l'avenir, pour la transmission. Parce que Trainé, encore une fois, avait une vision de la vie. Il n'en parlait pas beaucoup. Il l'a confié à quelques-uns. Je fais partie de cela. Et pour moi, c'est la vraie vie et pas autre chose. C'est la vie qui va, comme il disait dans ses chansons. C'est la vie qui va et cette vie qui va, il faut que tout le monde en profite et qu'on prépare l'avenir.
On vous comprend bien. Eh bien, merci beaucoup.
Mais avec joie et comme disait Charles Trainé, avec un J comme joie.
Tout à fait. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.
Et pour plus d'informations sur Trainé, vous pouvez consulter le site narbonne.fr, maison natale Charles Trainé, ainsi que le livre de Jacques Pessis, Trainé hors champ, chez Ken Édition.
Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès.